parole du jour avec le Père Willem.
La réalité est la même pour tout le monde. Si la voix du pape François rejoint des millions d'auditeurs au-delà des populations catholiques, c'est parce qu'il parle avec les mots de tout le monde d'une réalité que tout le monde subit, l'emprise de la société de marché sur la vie quotidienne et notamment le consumérisme obsessionnel que François définit comme le reflet subjectif du système marchand, autrement dit, le formatage de nos comportements. Le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits, écrit François au paragraphe 203 de l'encyclique. Ce mécanisme, dit-il, consiste à submerger les individus dans une spirale d'achat et de dépenses inutiles. Plus le cœur de la personne sera vide, plus elle aura besoin d'objets achetés, à prendre et à consommer. Le système vide nos cœurs de tout ce qui n'est pas désir d'achat, fétichisme d'objets toujours plus technologiques, conçus pour être toujours jetés, toujours remplacés, à un rythme de plus en plus rapide. Cette surenchère accélérée est le ressort de ce qu'on appelle la croissance. Et c'est une spirale du vide qui aspire l'individu en tant que consommateur. Mais le même individu, en tant que salarié, est en proie à une autre spirale, celle d'une économie financiarisée et qui déshumanise la vie professionnelle. Pris entre cette déshumanisation au travail et le néant du consumérisme, l'individu cherche quoi invoquer pour que sa vie ait du sens. Ni le politique, ni l'éthique, ni la culture, ni même le fort intérieur ne semblent garder consistance dans notre société. Ils sont rongés par le culte de l'idole qui renvoie l'individu au consumérisme. Qui peut tenir dans cette ambiance absurde? D'où le malaise dans la civilisation, la perte de la conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous selon le diagnostic de l'encyclique. Dans la pensée libérale, la société des hommes, dans sa richesse et sa diversité, voilà ce que nous avons à devenir. Accueillir ces diversités, la vivre dans le respect mutuel, mais grandir ensemble. Le système ultralibéral inflige au peuple cette paralysie avec une croissance de plus en plus obsessionnelle. Prédateur nuisible à l'économie réelle qu'il prétend incarner, ce système est dit ultralibéral comme s'il s'agissait d'un excès ou d'une nouveauté. Ne s'agirait-il pas plutôt du libéralisme à l'état pur, comme il y eut autrefois en Union soviétique, le socialisme réalisé? Tous les théoriciens assurent que si le système ne marche pas, c'est qu'on n'a pas encore assez ou pas vraiment réalisé. C'est ce que disaient les derniers apologistes du communisme dans les années 1970. C'est ce que disent les arrière-neveux de Milton Friedman dans la deuxième décennie 2000. Mais le système est là, sous nos yeux. C'est celui qui a imposé au monde la révolution libérale des années 1990. Ses effets sont autour de nous. Un malaise dans notre civilisation une économie du but, une libération qui opprime, et l'environnement ravagé. Il suffit d'écouter nos dirigeants, à les entendre. Rien n'existe hors de l'économie marchande et financière. Son empire sur les mentalités n'est pas fonction de ses résultats, mais bien moins bien elle marche, plus elle règne. Bon, le reste est frappé et zappé. Et passe à la trappe ce qui ne peut pas devenir marchandise, ce qui relevait de l'âme et de l'intelligence. Non seulement le legs des siècles, mais toute création de l'esprit, à moins qu'il s'agisse de célébrer le système et ses technologies. L'empire de la marchandise est donc totalitaire dans la mesure où il s'empare de tout. Le fondateur étymologique du totalitarisme, Benito Mussolini, disait « Je prends l'homme au berceau et je le garde jusqu'à la mort, moment où je le rends au pape. » Aujourd'hui, le totalitarisme marchand ne pense même plus à rendre les morts au pape, puisque la religion et la mort, sauf pour parler d'euthanasie, font partie des choses que le système écoute du champ de sa vision. Dans la pensée libérale, la société des hommes, dans sa richesse et sa diversité, n'apparaît plus que comme un auxiliaire du marché. Ces phénomènes, et d'ailleurs sans précédent dans l'histoire des civilisations. Le premier à l'analyser fut un historien de l'économie, Karl Polanyi, dans un livre de 1944 intitulé « La grande transformation ». Depuis l'aube des cités humaines, écrivait-il, l'économie était encastrée dans les relations sociales. Désormais, ce sont les relations sociales qui sont déstructurées pour être encastrées de force dans le nouveau système économique. Il en résulte trois faits. Premièrement, le non-sens de la société, parce que l'activité économique devient absurde si elle ne s'intègre pas dans une civilisation. Deuxièmement, l'impression de tyrannie, parce que la marchandise générale détruit, disait Jean-Paul II, des biens essentiels de l'humanité, qui étaient gratuits et fragiles. Troisièmement, les nouvelles mœurs, parce qu'elles font partie de la destruction de l'humain par le système économique, l'abolition de l'idée de normes. Le retour au degré, disons, plus lucide du bien et du mal sont non seulement prônés par les lobbies, mais approuvés très officiellement par le monde des affaires. Supprimer les repères éthiques is good business, déclare le président de la méga banque Goldman Sachs. Pour terminer, que peut être une vie, une œuvre majeure. Une vie, c'est un peu comme une cathédrale. Ça se construit pierre après pierre, patiemment, obstinément, en ne perdant jamais de vue la beauté finale de l'œuvre. Chantier pharaonique, toujours exposé aux pluies, au soleil, au mauvais vent, comme aux douces brises. Avec le temps qui passe, l'œuvre avance malgré tout, et il arrive même qu'elle monte très haut. Mais peu importe la hauteur à laquelle on a pu arriver, l'essentiel n'est pas dans ce qui reste à faire, mais dans ce que nous avons déjà construit. L'essentiel est ce qui a été fait, tienne debout et résiste aux assauts du temps. L'essentiel est que l'œuvre fasse sens et donne du sens à la vie des frères et des sœurs. L'essentiel est ce qui a été accompli, puisse être transmis comme un témoin précieux aux générations suivantes, qui leur donne envie de vivre en essayant de faire naître la beauté. L'essentiel, enfin, c'est d'avoir pleinement participé aux grandes œuvres de la vie et d'être parti à l'assaut du ciel. Voilà nos souhaits de carême. Alors, ça pourrait être un joyeux carême pour une Pâque de libération du cœur et de l'esprit pour toute l'humanité.